chances de pouvoir re-rentrer sur le terrain. J'ai donné le maximum et je pense que c'est l'essentiel. Il y a eu plein de choses, notamment avec ma famille, c'était sympa de pouvoir partager ce moment, avec le public aussi. C'était vraiment bien parce qu'au deuxième set, j'étais un peu moins dedans, lui était bien meilleur que moi au deuxième. Et de réinverser le match au troisième set, c'était pas facile de réussir à le faire. C'était une bonne fierté et quand la balle est sortie pour la balle de match et que j'ai finalement gagné le match, c'était un super sentiment.
Corentin Moutet au micro d'Éric Mamrut. Enfin, c'est un Français qui arbitrera la finale de la Coupe du Monde de rugby samedi au Japon. Jérôme Garcès a été choisi pour le choc Angleterre-Afrique du Sud. C'est la fin du journal.
Radio G. www.radio-g.fr.
Bonsoir à tous. Tout de suite, c'est l'heure de l'oreille curieuse sur Radio G. Bienvenue dans la quotidienne des actualités culturelles et locales. Ce soir, je vous propose de découvrir le livre de Marion McGuinness. C'est une autrice angevine, mais qui nous emmène en voyage à travers le monde entier, vraiment sur les 5 continents, dans un tour du monde du bonheur. C'est le titre de son dernier ouvrage, qui est paru la semaine passée. C'est tout frais, tout beau, tout neuf. Et on va en parler ensemble jusqu'à 18h50. Ici Annelie derrière le micro, à tout de suite. Je vous le disais, ce soir, je reçois une autrice. C'est pas tous les jours, on reçoit aussi des musiciens, des musiciennes, mais j'aime bien aussi quand on parle de gens qui écrivent. Bonsoir Marion.
Bonsoir, merci de nous recevoir.
Bah, avec grand plaisir, enfin, on pourrait se dire ça à la fin de l'émission. Donc je vous reçois pour le tour du monde du bonheur. Le livre est sorti la semaine dernière.
Oui, le 15.
Aux éditions, ah oui, alors la semaine d'avant.
Oh, c'est pas grave.
Il y a peu de temps, début octobre. Et c'est aux éditions De Bock Supérieur. Alors vous avez écrit ce livre, mais vous êtes aussi traductrice, lectrice de langue anglaise.
Oui, et puis autrice et romancière. Donc voilà, j'écris, je traduis et je vis en anglais et en français, en
et
gros.
Wow, vous baignez dans la littérature et dans plein de mondes.
Dans les mots, tout le temps.
Dans les mots, tout le temps. Et pour ce livre-là, vous êtes partie de l'observation ou l'idée peut-être que le bonheur ne se définit pas de la même façon dans tous les pays du monde. Au Danemark, au Pérou, en Inde, au Bénin peut-être.
C'est ça. J'avais, en 2016, j'ai eu la chance de traduire le livre du Hygge, qui parle donc du Hygge, qui est un art de vivre danois.
Et si on est comme moi, qu'on ne sait pas trop bien le prononcer, ça s'écrit
H-Y-G-G-E. Oui, c'est Hygge. Voilà. C'est vrai que oui, le danois est une langue très très compliquée à apprendre. Je ne parle pas danois. Et donc j'avais découvert cet art de vivre et quelques temps après, j'ai traduit tout autre chose. J'ai traduit le petit livre de l'Ikigai, qui est donc là, c'est une philosophie japonaise. Et c'est vraiment à partir de là que je me suis rendu compte que, en changeant de continent, en changeant de pays, on changeait complètement de façon de voir les choses et d'envisager ce qui pouvait nous rendre heureux. Et ça m'a donné envie d'en découvrir encore plus. Donc, d'un point de vue personnel, j'ai commencé à lire sur le sujet et j'ai proposé ce tour de monde du bonheur à une éditrice qui est tombée amoureuse de l'idée aussi. Et c'est de là que tout est parti.
Donc en fait, l'idée, elle vient aussi de votre travail de traduction, de découverte. Enfin, c'était pas forcément le but pour vous au départ de proposer ce livre-là.
Pas du tout. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes lectures, que ce soit des articles ou regarder des vidéos sur YouTube ou des rapports, enfin vraiment un petit peu de tout, je suis un peu boulimique de tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de façons de voir les choses différentes. Et c'était assez fascinant que tant de cultures différentes, tant de façons de vivre différentes, que ce soit à la campagne ou en ville, ou les religions différentes, les générations différentes, finalement, on exprime de façon complètement différente, mais une même quête qui est d'être heureux et de s'épanouir.
Parce que c'est vrai que spontanément, on se dirait le bonheur, bon, c'est le même partout, quoi.
Alors, la notion de bonheur, et je pense que ce qu'on ressent quand on est heureux, oui, ça c'est universel, mais qu'est-ce qui arrive à déclencher cette sensation en nous, ça dépend de notre environnement, de notre culture, de notre âge aussi, puis de notre personnalité dans une certaine mesure.
On en parlera un peu plus en détail peut-être
avec
en parlant de toutes ces approches, de concepts, enfin il y a beaucoup beaucoup de choses, mais peut-être est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment vous avez construit ce livre, parce que c'est vraiment un tour du monde en fait.
Oui, alors c'est vrai qu'on voulait vraiment, alors être exhaustif c'est impossible. On s'est dit dès le début qu'on ne pourra pas être exhaustif. Malheureusement, la maison d'édition a refusé de m'envoyer en voyage dans tous les pays du monde pour faire mes recherches. Bon, j'étais un petit
peu... dommage.
Oui, j'étais un peu déçue là, sur ce coup-là. Mais on s'est dit, on va vraiment faire un tour du monde. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres autour du bonheur et du développement personnel sur le marché. Mais souvent, ce sont 200 pages sur un concept. Et là, on s'est dit, on a envie de faire découvrir beaucoup plus de choses. Et puis, bah voilà, moi, j'avais pas envie de me cantonner juste à l'Europe ou juste aux États-Unis ou n'importe quoi. Donc, on s'est dit, on part sur les 5 continents et on a trouvé un certain nombre de concepts par continent. Et puis, du coup, c'est un atlas. Ça se présente vraiment comme un atlas. Donc, les 5 grandes parties, ce sont les 5 continents. Et dans chaque partie, on en a également profité pour mettre un portrait de chercheurs du bonheur. Ce sont des gens pas forcément connus, mais qui travaillent vraiment à rendre d'une certaine façon le bonheur plus compréhensible à leur culture, à leur pays. Donc ce sont soit des chercheurs, soit des scientifiques,
des musiciens.
Il y a vraiment un petit peu de...
Il y a Bob Marley, Desmond Tutu, Boris Cyrulnik.
Voilà, Mike Viking, qui est donc l'auteur du livre de Hugo, qui est devenu vraiment une figure emblématique du bonheur en Europe en ayant fondé l'Institut de recherche sur le bonheur. Et également, par exemple, Albert Einstein et puis Laurie Santos, qui est, bon, j'avoue, ma petite préférée, c'est le côté féministe qui ressort. Une professeure de psychologie de Yale qui a ouvert un cours de psychologie donc pour les étudiants, ouvert à tous les étudiants, et qui s'appelle le bien vivre ou pour être heureux. Et donc vraiment le travail et les devoirs des élèves et des étudiants, c'est de travailler à être plus heureux. Donc, et c'est évidemment sans surprise le cours le plus populaire de la fac, et il est disponible en ligne partout dans le monde gratuitement. Donc n'importe qui peut s'inscrire à ce MOOC, comme on dit là, ce cours
en ligne
gratuit pour être plus heureux.
Génial. Le point de départ du livre, c'est vous découvrez certaines approches autour du bonheur en les traduisant.
C'est ça.
Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a plus d'une centaine dans ce livre-là. Enfin, qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Oui, il y en a pas mal. Alors, chaque concept important se présente en double page. Donc, il y a quand même beaucoup de photos, de très jolies photos. Alors ça, j'avoue que je peux le dire, je peux m'en vanter parce que c'est pas du tout mon travail. C'est pas moi qui les ai choisis. Donc, voilà, ça me fait pas trop mousser. Chaque double page fait vraiment un focus, un zoom sur un concept important, comme le hugue, l'ikigai, mais... beaucoup de concepts qui sont beaucoup moins connus, qui n'ont pas encore eu leur livre, en tout cas en France. Et puis, je fais des rapprochements avec d'autres sous-concepts, j'ai envie de dire, qui ressemblent. Parce qu'effectivement, on trouve à la fois des différences, mais des petites choses qui peuvent se relier entre les pays, qui peuvent nous rappeler ceci ou nous rappeler cela dans certaines façons de faire. Et donc, je pense qu'on a une cinquantaine de concepts bien développés, mais qu'en tout, il doit y en avoir 80, quelque chose comme ça, enfin, dont il est mention en tout cas au fil du livre.
Et c'est assez fabuleux de voir cette diversité d'approches, de façons de voir les choses, de penser, de comment, tout ça juste pour vivre mieux. Alors juste entre guillemets, oui. Hein, parce que c'est, je crois, quand même quelque chose de très important. Et ce travail de documentation, j'imagine qu'il a dû être assez colossal. Comment est-ce que ça s'est fait ?
Oui, il a été... alors j'avoue que c'est le livre pour lequel j'ai eu le plus de travail préparatoire. Alors quand je fais des traductions, bon, je suis à l'aise, il n'y a pas de problème. J'ai écrit pas mal d'autres livres dans le domaine de la parentalité notamment. Ça, j'avoue aussi que je suis pas mal à l'aise. C'est ma zone de confort. Mais là, j'ai dû sortir de ma zone de confort et je me suis documentée pendant pas mal de temps. C'est un projet qui est né il y a un an et le livre vient de sortir. Donc il y a quand même un an entre l'écriture, la correction, la maquette. C'est beaucoup. Surtout, ces dernières années, l'édition va très vite. Donc, prendre un an sur un projet, c'est quand même c'est considérable. Et donc, j'ai beaucoup lu. Vraiment, la source phare, c'est le rapport annuel sur le bonheur de l'ONU. Mmh. Ça, c'est la base. Et puis après, il y a tout ce qui est articles parus dans les journaux en ligne, alors en français ou en anglais, des vidéos YouTube aussi, des blogs, les sites officiels de certains pays qui parlent, parce qu'ils mettent en avant pour faire valoir leur spécificité nationale. Donc voilà, et puis de clic en clic, de livre en livre, j'ai obtenu assez de matériel pour remplir ce livre.
Vous avez été super ouverte sur tout ce qui se disait sur le sujet.
Voilà, c'est ça, j'essaie vraiment d'aller également dans plusieurs points de vue, de ne pas rester juste sur lire ce que l'Office de tourisme d'Indonésie dit sur le sujet, mais de voir... C'est vrai que maintenant sur Internet, on trouve des sources amateurs vraiment très très diverses, très intéressantes. Il suffit d'aller sur YouTube et on trouve des petits témoignages ou des petits reportages qui sont très très bien faits. On croise avec des blogs voyages, des gens qui racontent qu'ils ont vécu, etc. Enfin, voilà, en faisant des croisements de beaucoup, beaucoup de choses, on tombe sur une certaine idée une certaine vérité, en tout cas, qu'on essaie d'être le plus objectif possible.
Je vous propose, avant de découvrir encore un peu plus en détail le tour du monde du bonheur, Marion, d'écouter Nina Simone. J'ai choisi un titre qui, personnellement, me donne le sourire, c'est « Here Comes the Sun ».
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it feels like years since you've been here. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say. The smiles are returning to the faces now. Little darling, it seems like years since you've been here. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, feels like years since you've been here. I'm glad to see it, I see it, yeah, yeah. It's alright.
of darling. He thinks the song.
Écoutez Radio G et l'oreille curieuse, et ce soir je reçois Marion McGuinness pour parler du Tour du monde du bonheur, un livre qui est sorti il y a une dizaine de jours à peu près et qui vous emmène sur les 5 continents pour découvrir des approches, des traditions aussi liées à cette quête a priori universelle du bonheur. Marion, on a parlé un petit peu de la genèse du livre, du projet. Ce que je me suis demandé aussi, c'est est-ce que vous l'adressez ou vous voyez qu'est-ce que vous avez envie de transmettre avec ce livre-là ?
Alors moi, en l'écrivant, ça m'a enrichi personnellement. Parce que c'est vrai que ça oblige à sortir un peu de sa zone de confort, de sa petite bulle quotidienne. Bon, même à Angers, première ville de France pour le bien vivre, etc.
Oui, c'est vrai.
Voilà. Bon, parfois tout n'est pas rose. Et là, du coup, ça met les choses en perspective. Quand on se rend compte que dans certains pays, beaucoup plus pauvres que nous, par exemple, si on se fie au classement annuel sur le bonheur de l'ONU, ils arrivent à être heureux, on se dit quand même, bon, moi je peux y arriver aussi si je le veux. Et toutes ces recherches, aussi diverses soient-elles, ont vraiment quelque chose en commun, et qui est vraiment pour moi, alors je dirais pas jusqu'à dire que c'est une devise, mais c'est quelque chose que j'essaie vraiment de garder en moi et que j'essaie vraiment d'appliquer tous les jours, c'est le bonheur vient de soi. Il vient pas de l'extérieur. Alors ça fait un peu psychologie de comptoir, dit comme ça, mais on se rend compte à quel point c'est vrai. Et heureusement que c'est vrai, parce que sinon, finalement, on serait jamais heureux, parce que on finit par s'habituer à ce qui est à l'extérieur, on finit par s'habituer à quelque chose, et on a toujours besoin de plus, et plus, et plus, et plus. Et c'est pas possible. Alors que si on arrive à le trouver en soi, avec l'environnement qui nous est donné, et sur lequel on peut souvent pas avoir beaucoup d'influence, et ben à ce moment-là, on a une possibilité de s'épanouir.
On a un peu plus de clés pour atteindre un mieux vivre.
Oui.
C'est pas mal. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Je pense vraiment que chacun peut trouver une clé, voilà, pour être heureux, parce que même en France, on est tous différents. Voilà, donc je dis en France parce que le livre est en français, mais il paraît aussi en Suisse ou en Belgique, ou dans n'importe quel pays où les gens parlent français. On est tous différents, et donc du coup, je pense que certains concepts vont paraître complètement fous à certains et complètement inintéressants à d'autres. Et puis, sur certaines pages, on va dire « Ah, ça me parle. Ça correspond à ma façon de voir les choses. Ah oui, donc, par exemple, j'aime la solitude, je peux être heureux et je peux m'épanouir. » Je peux trouver des choses pour être heureux dans la solitude. Ou au contraire, j'aime être entouré de monde, ou j'aime être déconnecté. J'aime pas être tout le temps sur mon téléphone, alors que c'est la mode ces dernières années. Mais non, c'est possible d'être heureux en se déconnectant. Voilà. On peut vraiment trouver à chaque concept quelque chose qui va nous parler et qui va nous aider à avancer un petit peu sur ce chemin d'épanouissement.
Justement, est-ce que vous pourriez nous présenter quelques-uns des concepts, des idées que vous avez choisi de présenter dans ce livre ? Alors, je vous laisse un peu choisir parmi les 5 continents. Il y a beaucoup de choses et c'est vraiment super, en fait, pour la curiosité. On découvre plein de choses.
Alors, c'est vrai que moi, j'ai un petit préféré. J'hésite toujours à en parler à la radio ou ailleurs. Ça me fait passer pour une jeune alcoolique, en général. Donc, c'est le Kalsari Kani. C'est un concept finlandais. Alors, je suis pas sûre de le prononcer exactement correctement. S'il y a des Finlandais qui nous écoutent, ils me pardonneront. Le principe du Kalsari Kani, c'est alors vraiment mot à mot, si on découpe ce mot, ça veut dire être ivre et en caleçon. Donc voilà. Bon, après, caleçon, vous prenez le sous-vêtement que vous voulez. Hein.
Mais voilà, plutôt j'ai... relax dans un canapé.
Voilà, c'est ça. En gros, c'est un art de vivre tranquille à la maison, bien étalé sur le canapé, devant Netflix, avec un paquet d'M&M's ou un truc bien régressif à portée de main.
Et on peut parler de Netflix et de M&M's parce que je crois que c'est quelque chose de très récent comme concept. Ou je dis n'importe quoi.
Netflix and chill, oui, ça date. Alors Netflix, nous en France, ça a déjà une petite dizaine d'années.
Mais... Non, mais je pensais que c'était cette idée-là, mais peut-être que j'ai mal lu. Hein. Peut-être que je vous écoute, Marion.
On s'est perdu.
Je suis en train de vous déconcentrer.
Non, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime, parce qu'on est dans une société, en tout cas en France, où il faut toujours faire quelque chose, il faut être occupé, c'est toujours bienvenu d'être le dernier à quitter le bureau, d'être toujours pressé. Tu fais quoi ce week-end? Je vais voir 4 films, 3 expos, j'ai 2 dîners. Enfin, à un moment donné, il faut juste s'arrêter et prendre le temps de vivre et de se ressourcer. Et finalement, le calsaricani, c'est s'autoriser à ne rien faire pour en ressortir finalement plus reposé et plus, bah voilà, mieux dans sa peau. Donc évidemment, c'est pas à faire tous les jours, parce que bon, tous les jours on slip avec un verre de vin, c'est bon,
c'est triste.
C'est pas très bon signe. Mais voilà, c'est de temps en temps, etc. Et c'est vrai que moi j'ai une affection particulière pour les concepts qui poussent à ralentir, à en faire moins. Aux Pays-Bas, les Néerlandais ont le Niksen. C'est vraiment, ils ont un mot pour dire ne rien faire. Ben voilà, c'est vraiment ça. C'est l'art de ne rien faire. Et ne rien faire, c'est faire quelque chose. C'est s'autoriser de s'ennuyer et donc voilà, bah de profiter de la vie, de se ressourcer. Et moi, moi, j'ai 2 enfants à qui d'ailleurs je dis bonjour, Oliver et William, qui vont être tout fous de m'entendre dire leur prénom à la radio. Les enfants aujourd'hui, on les presse aussi, on leur demande tout le temps de se dépêcher, on leur donne 54 activités extrascolaires et on ne leur laisse pas le temps de s'ennuyer, parce qu'on a toujours l'impression que si on les laisse s'ennuyer, on est des mauvais parents. Alors qu'en fait, non, ça permet de développer l'imaginaire, ça permet de se reposer, etc. Et donc je me dis que si les adultes se réapproprient l'idée de ralentir et de prendre le temps, il sera peut-être possible de l'autoriser aussi à nos enfants.
Et c'est aussi ces mots ou ces approches, ces concepts qui reconnaissent en fait des façons d'être ou des façons d'agir finalement. On parle de quête du bonheur, mais ça peut aussi juste parler d'état éphémère.
Ah oui, bah, de toute façon, je pense qu'il n'est pas possible d'être tout le temps heureux. Enfin, ça, c'est pas possible. C'est vraiment un état transitoire. C'est comme les émotions, hein, ça vient, ça passe. Mais effectivement, ce sont des petits moments. Alors, on souhaite d'en avoir le plus possible dans la vie, mais des petits moments où on se sent vraiment bien. C'est une sensation que tout le monde connaît, hein, vraiment. Par exemple, alors, je ne sais pas, peut-être que vous en aviez noté, aussi, mais en Hongrie, il y a le flow, qui est vraiment, si je devais le traduire, alors c'est un mot anglais, mais c'est hongrois. Comme beaucoup de concepts de psychologie, le mot anglais a été gardé. Mais le flow, c'est... alors c'est vrai que les artistes le connaissent beaucoup, c'est un état de quand on est inspiré, cette sorte d'état de grâce qu'on ressent quand on est inspiré, alors quand on fait la musique, quand on crie, on écrit, quand on peint ou n'importe quoi, mais c'est une sorte de parenthèse dans le temps n'existe plus rien n'existe, on est juste complètement à son œuvre, complètement à ce qu'on fait, et ça nous met dans un état, je dis c'est pas une transe encore, mais c'est presque ça. Alors évidemment ça ne dure pas, mais c'est un état de bonheur artistique qui est complet.
Où les choses arrivent d'elles-mêmes,
voilà,
un
c'est
peu
ça.
Facilement.
C'est ça, c'est ça. Et puis, bah, alors c'est vrai que selon les pays, les méthodes pour être heureux sont vraiment différentes. Si on va en Asie, par exemple au Japon, on a des méthodes qui sont plus calme, plus zen, mais ce qui correspond aussi à la manière dont
une culture.
Voilà, tout à fait, dont ils sont. Là-bas, par exemple, le kintsugi, qui est vraiment un art que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas un concept psychologique, c'est un art artisanal, c'est manuel. Le kintsugi, c'est l'art de réparer en faisant des jointures à l'or. Donc, c'est vraiment un art ancestral au Japon, et qui vient à l'origine de Chine, mais c'est devenu vraiment un art au Japon, qui consiste à prendre donc toute la vaisselle, tout ce qui est en céramique ou en porcelaine, et si vous le cassez, on ne jette pas ce qui est cassé, on le répare, et on le répare en le rendant encore plus beau, donc avec une sorte de lac doré. Et c'est vraiment un symbole de résilience, ça montre vraiment que c'est pas parce que quelque chose est cassé, si vous vous sentez cassé, que forcément il n'y a plus rien de bon et que vous êtes destiné à être malheureux toute votre vie. Non, vous pouvez vous servir de ce que vous avez vécu, de vos souffrances, et de ressortir finalement plus beau, plus grand. Et ça, je trouve, comme philosophie de vie, c'est quelque chose qui pourrait servir à tout le monde tous les jours.
Oui, et qui part d'un objet, enfin, effectivement, ça fait des choses très belles.
Oui, c'est magnifique. Hein, si vous avez l'occasion d'aller voir sur Internet ou n'importe où, il y a parfois des expositions. Les kintsugi, c'est vraiment un art magnifique.
Là, on a parlé d'approches, de philosophies qui peuvent être plutôt vers le ralentissement ou la contemplation, mais il y a aussi dans le livre, j'ai l'impression, des choses qui vont peut-être, qui sont assez différentes. Je pense au Miracle Miracle Morning. Où là, c'est alors on est aux États-Unis,
oui.
et c'est une approche qui est plutôt contemporaine.
Oui, alors tout à fait, c'est un concept qui a été inventé, c'est pas ancestral. Donc là, pareil, il y a vraiment une grande variété de concepts. Il y a des choses qui sont contemporains et d'autres ancestraux. Alors évidemment, l'ancestral aux États-Unis, c'est très compliqué. Hein. Le pays a même pas 300 ans, donc voilà. Mais donc oui, c'est inventé par un jeune qui est devenu donc coach de vie, conférencier, Al Elrod. Je pense qu'en France, pas mal de gens connaissent au moins le concept. Ça consiste à se lever plus tôt
pour en faire encore plus.
Pour en faire encore plus, mieux en fait. Voilà, c'est ça. Parce que ça part du principe que si vous vous levez à l'heure à laquelle vous vous levez d'habitude, vous êtes déjà en retard et donc vous courez toute la journée. Et qu'en vous levant plus tôt, vous avez le temps de vous réveiller déjà bien, convenablement, et pas juste à courir avec une tasse de café dans toute la maison pour enfiler votre chemise et vos chaussures. Donc vraiment calmement, méditer. Faire les priorités de votre journée, donc faire des listes, si vous voulez, mentales ou écrites, mais vraiment mettre les choses à plat. Et donc, au moment de partir de la maison, donc je dis ça typiquement parce qu'évidemment, souvent on quitte la maison pour aller au travail, eh bien, on est bien, voilà, on est à l'aise, on sait où on va, on sait où, voilà, tout se passe bien et ça évite de courir. Et c'est donc, voilà, c'est pour ça que c'est censé être miraculeux, parce que ça permet d'être mieux dans sa peau toute la journée finalement.
Oui, et c'est vraiment ce lien entre ancestral, entre tradition, on va parler du Bhoutan aussi, qui est un pays par rapport au bonheur, qui a une politique en fait,
oui.
Là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Alors le bonheur national brut, c'est un...
C'est la classe.
C'est ça. C'est vraiment récent, ça vient d'un jeune prince donc du Bhoutan qui a voulu que le bonheur ça fasse partie en fait des objectifs politiques de son pays, et donc en contrepoint du produit intérieur brut que tout le monde connaît et qu'on apprend au collège, au lycée, voilà, il a décidé d'instaurer l'indice donc de bonheur national brut pour évaluer le niveau de richesse d'un pays, mais de richesse, j'ai envie de dire, humaine, et pas juste
matériel,
des dollars, des
économique.
Euros. Exactement. Et c'est vrai que dans le livre, j'ai ajouté une citation de Robert Kennedy qui résume vraiment le principe du bonheur national brut, et qui disait que le PIB mesure tout sauf ce qui rend la vie digne d'être vécue. Et c'est finalement assez vrai, c'est une vision antimatérialiste. Et donc cet indice-là du Bhoutan mesure quatre axes différents, qui est quand même le développement économique et social, mais qui doit prendre en compte l'humain. Donc il ne faut pas que ce soit vraiment au détriment de ceux qui font ce développement, il faut que ça le prenne en compte, il faut que l'humain reste vraiment au cœur de ce développement. La transmission des traditions culturelles, ça c'est vraiment quelque chose de très important. On voit le passage de génération en génération, le fait de perdre ses racines, et c'est une perte de repère aussi pour certaines générations partout dans le monde, et c'est ça aussi qui participe à la pression d'être perdu et de moins heureux, on va dire. Le respect de la nature et l'environnement, ça c'est très actuel, je pense que c'est pas la peine que j'en parle, hein. L'éco-anxiété qui monte, je crois que tout le monde commence à se rendre compte que effectivement si on respecte pas la nature et l'environnement, le bonheur en tout cas il sera pas très long, hein,
oui.
Pas très durable,
ouais.
Et puis la qualité de la gouvernance du pays, c'est-à-dire le niveau de corruption par exemple, ou l'exemplarité, là on a peut-être des petites choses aussi à apprendre en France, donc c'est vraiment des axes qui sont beaucoup plus humains et qui placent vraiment l'humain au cœur de la volonté politique du pays. Donc là-bas, à chaque fois qu'une politique doit être votée, décidée, il faut d'abord qu'elle passe ce filtre-là en fait du BNB.
Qui est donc le bonheur placé comme axe.
Oui, c'est ça, c'est un objectif, c'est ça, c'est vraiment.
Et dans la rédaction du Tour du Monde du Bonheur, Marion, j'ai l'impression qu'il y a presque un travail de traduction, en fait. Ou en tout cas, c'est la question que je me suis posée, parce que vous êtes aussi traductrice donc d'une langue, des langues,
oui,
qu'on connaît. Mais là, il y a presque l'envie de traduire ou d'expliquer ou de faire la synthèse d'approches, de concepts, de traditions qui peuvent être millénaires, ouais, centenaires.
C'est vrai que je pense que pour la plupart des concepts, on pourrait faire un bouquin en fait. Hein. Donc le but, c'était vraiment de faire rentrer sur deux pages chaque fois cet aperçu du mot, sachant que la plupart du temps, ce sont vraiment des mots qui sont intraduisibles. Donc effectivement, en tant que traductrice, c'est une passion, c'est les mots intraduisibles, c'est quelque chose qui passionne, je crois, tous les traducteurs. Parce que quand on est traducteur, c'est pas, on cherche pas à forcément à comprendre ce qui est dit ou à traduire le mot, mais le message derrière, c'est ça. Qu'est-ce que la personne a voulu dire? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est l'univers qui est derrière une phrase ou derrière un mot? Et chaque mot est né dans une culture, à une époque, dans un environnement. La langue est vivante, enfin les langues sont vivantes. Bon, je parle pas du latin, mais bon. Là, on ne parle pas non plus. Les langues évoluent et du coup, les mots apparaissent et ont tout un univers derrière. Et c'est vraiment ça que j'ai essayé de partager, c'est d'ouvrir un peu la porte sur chaque culture et de laisser le lecteur un petit peu découvrir tout l'univers qui se cache derrière un mot, que ce soit effectivement son origine, son étymologie classiquement, son époque, sa culture, sa religion, le contexte. Pourquoi est-ce qu'il est né? C'est vrai qu'il y a des, voilà, on parlait du bonheur national brut. Est-ce que dans un pays qui aurait été riche matériellement à la base, est-ce qu'on aurait recherché ce genre de choses? Pas forcément. C'est né d'un besoin, c'est né d'une friction entre l'envie du prince et puis ce qu'il voyait dans la population finalement. Donc c'est vraiment ce travail-là un peu effectivement de traductrice culturelle, je sais pas trop comment dire, que j'ai essayé de faire.
Transmission, oui, il y a plein de... On va pas tous les évoquer, il y a Hakuna Matata qui va rappeler plein de choses à plein de personnes. Il y a le Gemlul Klischkeit.
Alors, je parle pas du tout allemand, ça a été une horreur pour moi, celui-là.
Moi, je me suis lancée, mais sans l'avoir sous les yeux, donc
la convivialité allemande. Vous pensez un petit peu à Oktoberfest, avec une bière à la main, et puis chanter des chansons avec plein d'amis, voilà.
On va écouter A Day in Paris de Mouzi, qui est sur son dernier album sorti il y a peu.
Oh,
écoutez ou vous rejoignez l'oreille curieuse sur Radio G, le 101.5 à Angers. L'émission est consacrée ce soir au Tour du monde du bonheur. C'est le titre du dernier livre de Marion McGuinness qui est avec moi dans les studios. Marion, vous avez parlé un petit peu, parce que là on a évoqué un petit peu toutes les choses qui sont dans ce livre qui est très riche, vraiment. Et il a aussi une forme, c'est aussi un objet, il y a des illustrations, des images. Vous en parliez un tout petit peu rapidement en début d'émission, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce travail-là de mise en forme, de comment rendre ces concepts, ces idées accessibles et agréables aussi à feuilleter?
Alors c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on appelle un beau livre, un livre de table à café, voilà, une table basse.
Il brille un peu sur.
Voilà, c'est ça. Il y a un marquage qui fait que ça brille à l'avant et beaucoup de très très jolies photos pour chaque concept. Donc évidemment les photos qui sont en lien avec les concepts, les portraits aussi. Donc quand je fais des portraits de chercheurs du bonheur, il y a leurs photos. Et puis quelques belles illustrations, parce qu'à chaque fois qu'on change de chapitre et qu'on passe à un nouveau continent, il y a une carte du continent. Bon, pour les nuls en géographie, ça peut aider. Moi, je suis pas très douée non plus.
Il y a même une carte qu'on peut compléter à la fin.
C'est ça. Voilà. Le but, c'est que à chaque fois vous visitiez un pays et que vous appreniez ou vous viviez des petits bonheurs qui sont vraiment typiques du pays, vous puissiez mettre une petite croix ou un petit point sur la carte et compléter votre propre tour du monde du bonheur.
Et qu'est-ce que ça fait de tenir entre ses mains, moi je n'ai jamais édité de livre, un ouvrage sur lequel on a travaillé pendant longtemps.
Alors c'est pas du tout mon premier livre, hein. Je crois que j'ai dû en publier sous mon nom une quinzaine et puis en traduction pareil. Mais c'est mon premier très beau livre, vraiment objet beau livre, couverture dure, etc. Bon, j'ai pas du tout le vocabulaire des éditeurs, donc ils vont me détester quand je raconte ça. Mais il est vraiment très beau, j'en suis vraiment très très fière. Effectivement, ça a été beaucoup de travail. L'émotion de tenir un livre avec son nom dessus serait due au fil des livres. Mais effectivement, je suis très heureuse de pouvoir vivre finalement de ma passion et de pouvoir transmettre ça et d'avoir des éditeurs qui me font confiance pour ce genre de projet. Il est magnifique, cette année a été assez fabuleux. J'ai mon premier roman qui est sorti, j'ai ce livre-là, j'ai travaillé sur des traductions fantastiques, notamment autour de Harry Potter. Enfin, moi, c'est toute ma jeunesse, donc je suis très très reconnaissante et ça me rend personnellement très heureuse.
Et ça fait aussi un lien avec tout le sujet du livre. Enfin, est-ce que aussi faire des choses, c'est pas une des recettes, est-ce que dans les recettes, dans les approches, c'est quelque chose que vous avez pu voir, ou c'était plus comment réagir à ce qui nous parvient?
Il y a aussi une façon de vouloir transmettre les choses, et c'est vrai que l'ikigai par exemple, c'est tout à fait ça, c'est le sens de la vie, donc son sens personnel de la vie. Et l'ikigai en gros, c'est si vous trouvez votre sens à vous, vous serez heureux. Et effectivement, j'ai tendance à dire que moi, l'écriture et le fait de pouvoir offrir au monde ce que j'écris, c'est mon ikigai. J'ai la chance que ça soit à la fois une vocation, quelque chose pour lequel on me paye, quelque chose pour lequel a priori je suis pas trop mauvaise, et clairement qui me grandit, qui me, voilà. À chaque fois que quelqu'un me dit « Ah, j'ai lu ton livre, ça m'a fait quelque chose », et ben c'est voilà, ça me rend heureuse, c'est mon ikigai.
C'est une belle conclusion. En fait, il y a énormément de choses à dire sur cette question du bonheur, mais je vais plutôt vous inviter à aller découvrir le livre, parce que c'est vraiment plein d'entrées, en fait, de clés. Voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. On n'est pas obligé d'apprécier toutes les choses.
Non, mais moi-même, il y en a pour lesquels j'ai beaucoup moins accroché, parce que ça correspondait pas forcément à ma personnalité, notamment ceux qui ont des accroches un peu plus religieuses ou contemplatives. Ça correspond pas trop à ce que je suis, donc ça m'a pas trop parlé. Le Miracle Morning entre nous non plus. Hein. Moi, j'ai deux enfants, donc Miracle Morning, c'est tout le temps. Il me réveille tout le temps. Donc voilà. Mais je pense que selon l'endroit où on est dans la vie, selon son âge, sa culture, ces manques aussi, ce qu'on cherche pour se combler, on peut trouver vraiment forcément, dans ces 192 pages, il y a forcément votre clé, votre entrée vers le bonheur.
Pour les curieux, les curieuses, ce sont les personnes qui écoutent l'émission. Merci beaucoup Marion, je redonne toutes les infos sur le livre, donc Le Tour du Monde du Bonheur, aux éditions De Bock Supérieur, et c'est Marion McGuinness qui l'a écrit. Une dernière chose à dire, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important?
Non, c'est parfait. Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Merci à vous d'être venu. On se quitte, nous, pour ce soir. On se retrouve demain. Il sera 18h10, comme chaque soir, et je serai avec Angers Nantes Opéra pour vous parler de la prochaine programmation. À 19h, dans 10 minutes, vous retrouvez Tendance à me plaire. Ils sont déjà derrière la porte, ils sont super motivés pour vous parler de choses tout à fait intéressantes. Je n'ai pas encore le programme. Et à 20h, ce sera Génération Sport, votre émission consacrée au sport, qui reçoit ce soir le club de foot de Bushmen. Ils vont vous parler du partenariat qu'ils viennent de créer avec l'association Le Colosse au pied d'argile, qui est une association qui propose beaucoup d'actions, de formations autour de la lutte contre le bizutage et la pédocriminalité. C'est extrêmement intéressant, vous pourrez être là à 20h. Bonne soirée sur Radio G. Toutes les émissions sont en podcast sur notre site. À demain.
Radio G 101.5 FM.
And my heart, 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 yeah, that's Some other place, some other time.